intervention ne sera pas celle de Nigel. Je vais faire une très longue présentation pour permettre à Nigel de revenir. Ça va être l'intervention de Mauro Rossi.
Je comprends, j'étais curieux de savoir, je comprends donc que je serai le dernier.
Oui, je pensais l'avoir dit, mais je suppose que le message n'a pas été...
Je le calme bien.
Excuse-moi, j'aurais... Effectivement, je l'avais dit à un moment donné. Enfin, Mauro Rossi, jeune collègue du professeur adjoint à l'UQAM, ancien postdoc du Créum.
Personne ne veut rester.
Qui partage aussi cet intérêt pour la chose fondamentale, les choses fondamentales, la métaéthique, l'éthique normative, et aussi la philosophie de l'économie. Et il a un intérêt certain pour les préférences, les valeurs aussi un peu, mais surtout les préférences quand on regarde ses dernières publications. Et j'ai le temps de vous faire la liste. Ça ne sera pas nécessaire. plusieurs articles. 2011, c'était une année faste pour Mauro, comme vous le verrez si vous allez googler. Mauro aussi. Donc, sans plus, je ne passe pas la parole.
Okay, merci. Merci à ceux qui ont organisé ce colloque. J'ai passé 2 ans merveilleux au Créum, donc je me sens encore très humain. Je suis très content d'être ici. Je sais que la question était quel est l'avenir de l'éthique dans un sens normatif, de quoi on devrait parler, quoi il vaut la peine de parler dans les prochaines années. J'essayais de penser à la question en termes prédictifs. De quoi les gens vont parler, et je me suis rendu compte que je n'avais pas trop d'idées. J'ai trouvé une connexion avec une des choses que Marc Florbet disait dans son article. Marc Florbet a lancé une prédiction selon laquelle dans les prochaines années, on continuera à parler de bien-être individuel. Donc le débat sur le bien-être individuel reprendra beaucoup de place. Et alors, je pensais que je pouvais faire une prédiction conditionnelle et dire que si Marc Florbet a raison, si vraiment on va reprendre à parler de bien-être, je pense que on discutera de, et on présentera des théories hybrides de bien-être. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Il y a essentiellement dans la littérature trois distinctions classiques selon lesquelles il y a 3 types de théories. La théorie hédoniste, la théorie du bien-être fondée sur la satisfaction des préférences, et des théories plus objectivistes. On peut dire que les théories qui appartiennent à aux deux premières catégories sont des théories subjectivistes, alors que la troisième est effectivement une théorie objectiviste. Un des problèmes de ces théories est que les deux premières sont trop subjectivistes, semblent manquer d'éléments objectifs, alors que le problème de la troisième, du troisième type de théorie est exactement l'inverse. Alors peut-être l'élaboration de certaines théories hybrides peut permettre de éliminer certains défauts des théories traditionnelles. Et la raison pour laquelle je pense qu'on va parler de théorie hybride de bien-être, c'est qu'il y a quelques distinctions dans la littérature qui existent déjà depuis quelques temps, mais dont les implications n'ont pas été explorées jusqu'au fond. Et essentiellement, pour comprendre les distinctions dont je parle, faut parler des questions qu'on peut se poser à propos du bien-être. Donc une première question est: quelles choses font en sorte que la vie d'un individu va bien pour cet individu? Donc, quelles choses sont bonnes pour cet individu? En anglais, on dirait « which things are good for the individual, for the life of the individual who lives this life ». Une théorie comme l'hédonisme classique dirait « seulement les expériences de plaisir sont bonnes pour l'individu ». Une autre question est, en vertu de quelles propriétés ces choses sont bonnes pour l'individu? Qu'est-ce qui, dans ces objets, fait en sorte, quelles sont les caractéristiques de ces objets qui font en sorte que, que ces objets soient bons pour l'individu? C'est la question de « good for making properties ». C'est aussi la question qu'on peut formuler de cette manière. On peut dire que quand on essaie de répondre à cette question, on essaie de identifier la base de surveillance du bien-être, sur quelle propriété le bien-être survient. Mais récemment, certains auteurs ont souligné que cette question est différente. La question de la surveillance est différente de la question de ce qui constitue le bien-être. Et je pense à Rabinowitz et Ron Rasmussen, qui essaie d'illustrer la différence entre base de surveillance et base constitutive à travers une analogie avec le jeu d'échecs. Essentiellement, ce qui rend permissible le mouvement d'un pion sont les caractéristiques de l'échiquier à un moment donné. Donc c'est la manière dont les pions sont disposés sur l'échiquier à un moment donné. Et ce qui constitue la permissibilité de ce mouvement est l'acceptation de la par convention sociale de certaines règles de la part des joueurs du jeu. Donc essentiellement, si on revient au bien-être, ici la question qui se pose est celle de voir qu'est-ce qui constitue le bien-être. Et cette question n'est pas nécessairement la même de la question de savoir quelle est la base survenante du bien-être individuel. Et pourquoi je pense que ces questions peuvent amener à formuler des théories hybrides, c'est qu'on peut répondre de manière différente à ces questions. Et récemment, j'ai travaillé sur un argument contre une théorie spécifique du bien-être, la théorie fondée sur la satisfaction des préférences. Essentiellement, quel est le rôle des préférences dans une théorie du bien-être? Bien, essentiellement, elles peuvent jouer trois types de rôles. Ils peuvent être les épisodes de satisfaction des préférences, peuvent être les choses qui font en sorte que la vie d'un individu va bien, ou le fait qu'un individu préfère certains objets peut être ce qui rend ces objets bons pour l'individu. Mais les préférences peuvent jouer aussi un rôle constitutif. L'idée, une suggestion possible est que si on est intéressé à trouver un rôle ou préférence dans une théorie du bien-être, on n'est pas forcé à choisir nécessairement les trois réponses. On pourrait penser que ce qui rend les objets, les choses bonnes pour un individu sont des biens comme la connaissance, le plaisir, l'amitié, l'amour, et que ces biens sont bons en raison du fait qu'ils ont de la valeur objective. Mais ce qui fait en sorte que cette valeur impersonnelle devient valeur personnelle est la présence d'une manière ou d'une autre d'une préférence. Donc dans ce sens, les préférences auraient un rôle constitutif. C'est simplement une manière de voir comment on pourrait combiner des éléments objectifs avec des éléments subjectifs. Les préférences, donc l'élément subjectif jouerait un rôle constitutif alors que l'autre élément plus objectif serait mobilisé pour répondre aux deux premières questions. Donc c'est moi ce que je pense que si Marc Robert a raison, je pense qu'on assistera à des débats concernant ce genre et des théories dans les prochaines années. Merci.